Vous écoutez
RMC. RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Drivois.
Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle nuit de l'after, ici en direct de notre studio américain, en direct de New York. Nous sommes là, en direct sur RMC, en direct sur After Foot TV, en direct sur la chaîne YouTube de l'after également, jusqu'à 6h du matin. L'after, première radio de France, le soir, avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Et bonsoir les amis.
Kevin Diaz est là également, salut Kevin.
Salut à tous.
Vous avez suivi avec frénésie le rugby, bien sûr, Toulouse champion de France, mais aussi les deux matchs de Coupe du Monde en course. C'est l'événement ce soir, ces deux matchs, on va aller sur place dans quelques secondes.
Écoute, hein, on est quand même là pour ça. Hein.
Oui, mais... On va pas mentir, on n'a pas regardé le rugby.
Voilà, ça vous
plaît. Je regarde.
À part savoir que Toulouse a mis une tarte à Montpellier.
Ouais. À part que Toulouse a gagné son 7e titre en 2 ans.
Bah, ils sont sur une belle série là.
Je crois qu'ils sont forts en fait en rugby, Toulouse.
Ouais.
D'ailleurs, un truc comme ça.
Alors, on n'oubliera pas l'actu de l'équipe de France dans l'heure qui vient. On parlera du crépuscule de Marcelo Bielsa, des blessés de l'Espagne, pas mal d'actu Coupe du Monde à passer en revue, bien sûr. Le 32-16 est ouvert. On vous attend également sur le numéro WhatsApp de l'After 06-12-424-424. Il y a 6 matchs aujourd'hui ici à la Coupe du Monde. Il y en a 2 qui sont en cours. On va aller dans quelques instants au stade. On va aller au stade de New York, juste derrière notre studio, pour Panama-Angleterre. Il y a 0-0. On va aller également suivre le match Croatie Ghana, il y a 1-0 pour les Croates, on est quasiment à la mi-temps face au Ghana. Et puis cette nuit, République démocratique du Congo, Ouzbékistan et Colombie, Portugal. Ce sera à 2h30 du matin tout à l'heure. Et puis à 1h30 du matin tout à l'heure. Et puis les deux derniers matchs de la nuit, ce sera Jordanie, Argentine et Algérie, Autriche. Autant dire qu'il y a du lourd. Donc cette nuit pour. À suivre sur RMC dans les nuits de l'after. On y va tout de suite parce qu'il y a un truc qui se passe important là, c'est que la Croatie, avec son but, est désormais premier de la poule. Si l'Angleterre n'arrive pas à battre le Panama, les Anglais se retrouveraient à jouer le Portugal en 16e. Et potentiellement, le vainqueur jouerait l'Espagne. Donc, le match est loin d'être fini. Hein,
alors que tu en parles alors qu'on approche de la mi-temps, je vais te dire, c'est normal que tu en parles, que je réagisse. J'ai pas trop envie. Je n'arrive pas à imaginer une seule seconde que l'Angleterre ne batte pas le Panama. Mais ce que j'ai vu de la première période, personnellement, ne me réjouit guère. Je trouve ces Anglais pas très bons collectivement. Je vois peu Harry Kane. Je suis pas 100% convaincu par Bellingham plus bas sur le terrain, même si je sais qu'il peut le faire. Mais alors Declan Rice n'étant pas là et étant selon moi un joueur essentiel de cette équipe, c'est Bellingham qui a reculé. Mais je veux dire, là on parle de Angleterre-Panama, donc moi savoir où joue Bellingham, où est Declan Rice, ce que fait Harry Kane, moi je m'attendais à dire Saka et Rashford, c'est les joueurs de côté qu'on attendait pour l'Angleterre, c'est eux qui vont réveiller le jeu. Et très honnêtement, j'aurais imaginé un 2-3-0 à la pause. Et là, je vois un 0-0.
Ouais, Aurélien,
très poussif.
Allons au stade.
Je suis très déçu. Mais très déçu.
Il y a un coup franc, Aurélien tire ça pour les Anglais.
27-28 mètres, plein axe. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Kevin. 0-0. Alors effectivement, globalement, les Anglais, ils sont nuls. À minima, ils sont mous. Ils ont pas envie et ils ont rien fait pour l'instant contre les Panaméens. Il y a 3 minutes de temps additionnel. Là, on est à 28 mètres. Marcus Rashford, le coup franc. Ça passe au-dessus du mur, à côté. Allez, à 10 cm du poteau gauche d'Orlando Mosquera. C'est peut-être Rashford le plus dangereux, mais bon, c'est toujours à côté. Et effectivement, comme tu le disais très bien, Gilbert, 0-0 contre le Panama, ça veut dire deuxième et ça veut dire Colombie ou Portugal en 16e de finale. Donc, c'est vraiment pas l'idéal.
Exactement, l'autre match c'est Croatie-Ghana. Clément Brossard suit le match. Salut Clément.
Salut Gilbert, salut tout le monde. Il reste une minute dans le temps additionnel. 3 minutes étaient annoncées, 1-0 donc pour la Croatie. C'est largement mérité. Le Ghana qui est sur un petit peu la même combinaison que face aux Anglais, à savoir jouer assez bas, essayer de colmater la moindre brèche. Ils se sont montrés dangereux quand même sur une frappe de Semenyo en réaction qui est passée pas loin du poteau de Livakovic. Mais le but est très beau aussi, croate, alors qu'il y a un centre qui passera devant tout le monde. C'est une frappe de Petar Sušić à la 31e. Il est à 25 mètres environ. Il arme du droit, ça passe entre les jambes d'un défenseur ghanéen. Et Benjamin Azaré, le portier qui joue à Accra en club, était un petit peu masqué, il n'arrive pas à se détendre sur sa droite. Et donc ces petits filets, c'est imparable. Et la Croatie qui, grâce à ce but, eh bien, occupe donc la première place de ce groupe-là. Bon, après, ça offre pas un adversaire.
Quand tu vois en plus que facile, c'est quand même une Croatie qui est en bout de piste. Si elle termine première de ce groupe-là, la qualité du groupe pourrait être remise en cause. Quant au Ghana,
la Croatie qui pourrait jouer le Sénégal. Si ouais,
quant au Ghana, je mets cette équipe dans mon top 3, allez, si je suis généreux, top 5 de la médiocrité dans cette Coupe du Monde.
Ils n'avaient pas encaissé de but jusqu'ici, mais c'est sûr que le match contre le Panama, notamment Daniel.
Aucune intention de jeu et des catcheurs.
Le match contre le Panama, c'est
vraiment pas beau.
À la 95e, ça s'était décanté sur le but ghanéen, mais c'est pour moi l'un des pires matchs de cette Coupe du Monde, le Ghana-Panama.
Ah ouais, non, mais le Ghana, ça joue pas au ballon.
Dans le jeu, il n'y a pas d'ambition.
Pour jouer au foot. Hein.
Ouais, ouais, c'est vrai. C'est la mi-temps à l'instant, 1-0 donc pour la Croatie, le but de ce soir.
T'as l'Arabie Saoudite, qu'est-ce que t'as encore comme équipe qui était bien naze?
La Nouvelle-Zélande.
Ils ont réussi à faire un truc.
Je vais te dire, je me demande. L'Arabie Saoudite, dans les intentions, il y a peut-être un. Ouais, Tunisie, ils ne sont pas venus pour jouer à la Coupe du Monde, ils étaient ailleurs. Mais Arabie Saoudite, dans le rapport au ballon, c'est peut-être au-dessus du Qatar. Et au Qatar, c'est vraiment. Le ballon, il ressort, elle a des bosses. Non, c'est vraiment terrible.
Sur la chaîne YouTube de l'Atlant, avec Daniel a trouvé un petit ballon avec le logo de l'Italie.
Je sais pas, on me l'a offert. J'en sais rien.
Il y a encore des trucs avec des logos de l'Italie à la Coupe du Monde.
J'en sais rien. On m'a offert ça, je suis arrivé, j'ai vu qui était là.
Ça doit être gratuit.
Voilà.
C'est la mi-temps entre l'Angleterre
et
le
Panama.
C'est
le ballon du SEM.
C'est du vintage, ouais. 0-0, ben voilà. Il s'est rien passé à part une demi-frappe de Rashford dans l'entrée de la surface de réparation. Le coup franc, j'étais content de venir voir l'Angleterre face au Panama. Ils ont mis 6-1 en 2018. Il y avait Harry Kane, tout le monde devait s'amuser. À l'arrivée, il flotte. On a les petits ponchos. Et en plus, l'Angleterre est nulle. Pour l'instant, il va falloir faire beaucoup, beaucoup mieux en seconde période. Surtout après le 0-0 contre le Ghana, où malgré 80% de possession, tu n'as rien fait. Et la pression des médias anglais va s'intensifier.
Contre le Ghana, c'est un peu le même scénario de match, mais contre le Ghana, l'Angleterre, je les ai pas trouvés complètement mauvais. En tout cas, bien meilleurs que ce qu'ils sont en train de fournir comme prestation là. Après, il y avait des occasions, il se passait des choses. Là, je trouve que c'est pauvre, même dans la relation entre les hommes.
Par contre, tout à l'heure, tu as dit en préambule qu'ils étaient pas bons, certes. Maintenant qu'ils n'aient pas envie, je suis pas du tout d'accord. C'est pas une histoire d'envie que ce soit difficile de mettre du rythme face à une équipe qui est en bloc bas, qui est en bloc médian, qui veut pas vraiment sortir à part sur 2-3 trucs, mais non, moi, un joueur de football de haut niveau qui peut se qualifier pour un 16e de finale, il a toujours envie.
C'est la mi-temps également entre la Croatie et le Ghana, Clément.
Oui, 1-0 pour les Croates, donc le but de Susic, une seule petite frappe, pas cadrée mais intéressante, de Semenyo pour les Ghanéens qui, on l'a dit, proposent pas grand chose dans le jeu. La Croatie se contente de gérer, et Luka Modric, donc titulaire, c'est la 20e fois qu'il démarre un match de Coupe du Monde. C'est un record pour
lui. Il se repose jamais.
Non,
quand tu vois qu'il y a une tonne de sélections qu'on fait reposer les stars, notamment dans le troisième match. Alors certes, là il y avait quand même des points à prendre.
Ils sont pas qualifiés.
Non, c'est vrai. C'est vrai.
S'ils étaient qualifiés, ils se seraient reposés.
Non, mais 201e sélection, c'est peut-être son dernier match de Coupe du Monde si jamais la Croatie venait à s'incliner. Mais pour l'instant, ils sont sur le chemin de la qualification, les Vatreni.
À tout à l'heure. Fabrice Hawkins est là. Il suit l'équipe de France, bien sûr, avec son crew, comme on dit ici aux États-Unis. Salut Fabrice.
Salut Gilbert, salut à tous.
On fait évidemment le point quotidien avec toi sur ce qui se passe en équipe de France.
Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, Fabrice?
Retour du sélectionneur déjà.
Eh oui, retour du sélectionneur Didier Deschamps qui est face à moi sur la pelouse d'entraînement, cette pelouse de l'université de Bentley ici à Boston. Didier Deschamps qui est revenu, on l'a senti vraiment très proche de ses joueurs. Il y a une scène, je pense, qui a marqué un petit peu tout le monde ici, c'est qu'il a vraiment pris Maxence Lacroix à part au tout début de la séance et ils ont discuté pendant 3-4 minutes et on le voyait bouger, gesticuler, bouger les bras, vraiment comme si presque il lui débriefait son match d'hier. Et voilà, on l'a vu aussi très proche de Malo Gusto, de Ryan Cherki, une petite tape derrière l'épaule de d'Ibrahima Konaté. Et pour vous dire un petit peu, il y a on va dire tous les remplaçants presque qui sont sortis pour cette séance d'après-match, à l'exception de Marcus Thuram et de N'Golo Kanté. Le reste des titulaires, on les a quasiment pas vus, on les a même pas vus du tout, hein, à l'exception d'Olysée, de Lacroix, Maxence Lacroix, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et William Saliba. Lui n'était pas titulaire, mais il était avec les quatre que je viens de vous citer. Ils ont fait des petits tours de terrain. D'ailleurs, on sent qu'il y a un programme spécifique pour William Saliba, qui a continué à courir avec le préparateur physique de l'équipe de France, Cyril Moine. Et donc ensuite, il y a eu une opposition 5 contre 5 sur 30 mètres avec deux buts. Dans un but, Brice Samba, dans l'autre, Robin Risser. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que 2-3 joueurs se sont un petit peu mis en évidence. Malo Gusto, j'ai bien aimé. Warren Zaïre-Emery également. Bradley Barcola aussi.
Oui, ce qui ne préjuge en rien de qui va jouer contre la Suède.
Non, pas du tout. Et Didier Deschamps observait tout ça, pour le coup, sans rien dire et en laissant la main à Guy Stéphane qui donnait les consignes. Et là, justement, Didier Deschamps, il est en train de donner des conseils, des consignes de placement à Ariane Cherki. Vraiment, ils sont face à face, ils discutent. Il est en train de mimer un défenseur qui fonce sur lui et il est en train de lui donner des conseils pour l'éviter. Voilà, il montre avec la main, il faut passer par la gauche et frapper. Voilà, très très proche de ses joueurs, Didier Deschamps qui est vraiment impliqué. Lui qui est de retour aujourd'hui, donc après les obsèques de sa maman hier en France.
Très bien, merci. Merci Fabrice. Bon, je pense que d'ici demain, on commencera à avoir des éléments compos. Hein.
Après, je pense qu'il n'y aura pas de grande surprise non plus. Hein. C'est-à-dire que, à part.
Si, on a un pari en cours avec Walid sur les deux devant la défense, quand même.
Alors
bah, Walid dit.
C'est quoi le pari?
Walid dit Rabiot, Tchouaméni. Et nous, on lui dit attention, on dit qu'il y aura Koné.
Ouais, je pense que Walid est plus près de la vérité. Mais c'est pas impossible de voir Manu Koné aussi, qui est très très apprécié. On l'a dit sur RMC Sport, on en a fait un papier.
Le problème, c'est qu'on
dans l'esprit du staff, c'est quasiment
titulaire. Donc en fait, il lui dit que tout le monde peut gagner le pari.
Non, mais en fait, Fabrice, pour être
Walid précis, a quand même plus de chance.
Oui, mais en fait, on le sait. C'est juste que comme il était prêt à payer le resto pour tout le monde, on a tous misé à l'envers.
Mais il faut le faire payer un petit peu, Walid.
Voilà. Non, maintenant, comme
tu es plutôt du genre à payer pour dire.
Maintenant, comme tu as le bras long, si tu peux faire en sorte, si tu peux faire quelque chose pour Manu Koné, comme ça, il invitera tout le monde. C'est un peu l'idée.
Là, tu me surestimes. mais non, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui va se passer en quart de finale, en huitième de finale, si l'équipe de France se qualifie jusque là, parce qu'à mon sens, Manu Koné peut vraiment rentrer dans le 11. Il est très, 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 très apprécié, tenu en très haute estime. À chaque fois qu'il a joué, il a été performant.
On dit pour mardi la compo, pas de surprise. Mais est-ce que c'est pas justement alors que on va arriver dans le premier match couperet, dans ce qu'on peut estimer être le début de la vraie compétition, est-ce que les messages qui seront envoyés au moment de la compo ne seront pas des messages quasi définitifs sur les contours de l'équipe qui devrait se dessiner à 12-13 max? C'est-à-dire maintenant on estime que Koundé démarrera tout le temps et qu'il n'y aura plus de problème, mais si par exemple Lucas Digne devait jouer dans ce 16e, est-ce que ça voudrait dire c'est lui le titulaire? Et pour le reste, si on est certain que Mbappé, Dembélé, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc on est sûr pour Olise, Mbappé, Dembélé, mais un petit peu moins pour à gauche. Donc si c'est Barcola qui démarre, est-ce que le signe n'est pas que c'est Barcola le titulaire? Même si on relativise tout ça en répétant pour la millième fois que désormais les titulaires dans une équipe, ça peut tourner. Il peut y avoir des postes où on envisage que le match se partage à deux, quoi.
Alors Fabrice, tu nous entends? Ah, je croyais qu'il y avait une coupure.
Ah bon. D'accord.
Oui, non, je disais Bradley Barcola, pour moi, avec Désiré Doué, ils vont se tirer la bourre jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dans l'esprit de Didier Deschamps, je pense pas qu'il y ait un titulaire. Et après, tu sais comment ça se passe, Daniel. Hein. C'est-à-dire que si Bradley Barcola est titulaire et qu'il fait un bon match, il aura de grandes chances de jouer en huitième de finale s'il y a qualification. Et de la même manière, si Lucas Digne d'aventure jouait et qu'il était très performant, ça jouera en sa faveur. Mais
donc on dit quoi? Il y a 8 titulaires et il y a 3 postes où ça peut bouger.
Moi, je pense qu'il y en a. Ouais, je pense qu'il y a 10 titulaires. Très honnêtement, je pense que Théo Hernandez est quand même devant Digne dans l'esprit du staff. Et d'accord. Qu'après, à gauche, ça peut changer en fonction du système. Où c'est Doué Barcola, où il va changer de système et Manu Koné pourrait rentrer dans ce 11 de départ.
Merci Fabrice. On se retrouve demain pour évidemment plus d'infos compos sans doute. Bonne soirée.
À très vite.
Dans un instant, on va partir en Suède. Et oui, parce que ça y est, hein, c'est désormais certain, c'est la Suède qui jouera face à la France. Que vaut la Suède? Qu'est-ce qu'on en dit là-bas? On aura avec nous Geoffrey, qui est un auditeur fidèle de l'After, qui vit à Göteborg, et qu'on a déjà eu dans l'After plusieurs fois lors des grandes compétitions pour parler de la sélection suédoise. Et puis l'actu des Bleus continue avec notamment ce qu'a dit Dembélé. Je ne sais pas si ça vous a échappé, les gars, mais il a quand même dit après le match hier, il a dit qu'en fait, lui, il préférait son match contre le Sénégal. Qui considère qu'il a été plus décisif contre le Sénégal.
Et contre l'Irlande du Nord aussi.
Et contre l'Irlande, exactement, en match amical. On en reparle dans quelques instants, sans oublier, bien sûr, Bielsa et la fin horrible de l'équipe d'Uruguay l'année dernière ici à la Coupe du Monde. Plus évidemment les matchs qui vont reprendre tout à l'heure. Je vous rappelle les scores à la mi-temps, Angleterre-Panama 0-0 et la Croatie mène à 0 face au Ghana. Donc la Croatie en l'état prend la tête du groupe, ce qui changerait quand même pas mal de choses dans le tableau des 16e. A tout de suite.
RMC After Live Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Drivois.
La nuit d'After continue jusqu'à 6h du matin. Il est minuit en France. Il est 18h ici dans le studio américain de l'After. Daniel Riolo est là. Kevin Diaz est là. On attend les deuxièmes mi-temps d'Angleterre, Panama et de Croatie, Ghana. Et on va parler de la Suède, adversaire de la France. Ce sera donc mardi soir sur RMC. Évidemment, vous le savez, France-Suède, 16e de finale de la Coupe du Monde. Geoffrey est avec nous, auditeur de l'After à Göteborg. Göteborg. L'IFK Göteborg qui a gagné une Coupe d'Europe.
Deux même. 82-87.
Göteborg qui a accueilli une finale de Coupe de l'UEFA de l'OM en 2004 face à Valence. Perdu.
82, l'entraîneur qui en fait fait les beaux jours de Benfica, Sven-Göran Eriksson, qui a été un entraîneur star pendant des années d'ailleurs.
C'est vrai.
Et moi je me rappelle surtout de Göteborg dans les soirées Ligue des Champions. Je crois qu'il y avait eu un triplé de Marco van Basten avec le Milan contre Göteborg. Je crois.
Quadruplé, je dirais presque même.
Peut-être.
Et notamment son fameux retourné. Quelques semaines avant son deuxième Ballon d'Or, je crois. Ouais.
Geoffrey, bonsoir.
Bonsoir. L'IFK qui a eu pendant longtemps un plus gros palmarès en Coupe d'Europe que l'entièreté du football français.
Que tout le football français, absolument.
Oui, ça fait
c'est
mal.
Vrai, ouais. C'est vrai.
Ça fait mal. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'en Suède, on se dit qu'on a une petite chance contre la France ou alors on est déjà bien content d'être là?
Les deux, mon général. Petite chance, il y a les médias qui parlent toujours qu'il y a une petite chance, mais je pense que c'est plus pour le dire, quoi, pas paraître désespéré. Mais clairement, il y a une trop grosse différence de niveau. Faut quand même qu'on voit, on a terminé dernier notre groupe de qualification pour la Coupe du Monde, derrière le Kosovo et la Slovaquie. On est repêché miracle. On termine troisième de notre groupe là, on est quand même en 16e.
C'est vrai qu'il y a quand même eu des qualifs un peu bizarres en cette Coupe du Monde. J'aurais pas ajouté au seum, mais bon, quand même, la Suède, je sais pas ce qu'ils foutent là. Hein.
Mais tu sais, on s'était dit,
c'est grâce à la Ligue des Nations,
avec les copains, c'est qu'on se disait, ça fait un peu Danemark 92, tu sais, on est là alors qu'on n'aurait jamais dû y être.
Sauf que l'issue sera probablement pas la même quand même.
Non, moi, l'idée quand même de se faire plaisir sur les matchs. Et c'est sans doute ce qui va se passer contre la France. Il n'y a pas trop d'espoir, mais ça va être de faire ce qu'ils peuvent faire et puis de passer un bon moment, quoi, de terminer cette Coupe du Monde d'une manière.
Ah oui, comme j'avais dit après le match où pourtant ils avaient perdu, ça devait être les Pays-Bas le premier. J'ai dit ouais. Les Suédois, le truc c'est que tu peux être sûr que ça va se donner à fond, leur capacité, leur potentiel qui est limité, ils l'exploitent à fond. Ils y vont, c'est une équipe qui a du cœur, c'est généreux, ça y va. Ouais. Je pense qu'en termes de niveau, comme tu le dis, c'est très loin des Bleus. Ouais. Mais il va falloir des bleus sérieux et ça passera sans problème.
Isaac Gyökeres, c'est quand même pas mal.
C'est quand même une sacrée attaque, oui. Voilà.
Il n'y a pas de vision à faire, mais même s'ils mettent, on va dire comme ça, si on arrive à mettre un but ou deux, bon, derrière, mon avis, on prendra aussi un certain nombre de buts. Donc, mais c'est ce que tu dis, c'est pouvoir jouer un petit peu sur ce qu'on sait faire. Alors, on ne sait pas forcément faire grand chose, mais il y a des joueurs qui se sont montrés un petit peu sur cette Coupe du Monde, c'était sympa. Donc, je pense qu'ils essaieront de jouer la France, c'est vraiment.
Anthony Elanga, notamment, qui a été bon.
Oui, il a été bon. Ça fait un moment qu'on l'attendait quand même. Quoi. Il a mis un peu de temps à arriver. Hein. Mais oui, il a été bon. On peut dire que Isak et Gyökeres n'ont pas été mauvais non plus.
Ah ben, Elanga, si c'est le soir où il arrive à mettre un centre dans la surface et pas derrière le but en tribune, avec lui, on ne sait jamais réellement.
Ouais, mais après,
on ne peut pas dire que le QI foot soit très développé chez lui, mais dans un bon soir.
Yacine Adjari, là, un jeune milieu de terrain aussi, là, qui arrive et qui est pas mal aussi. c'est pas du Boadi, mais ça ressemble un petit peu au quoi, non, assez filiforme comme ça, une belle technique.
Ouais, il paraît que les problèmes sont plutôt en défense. Il y a aussi le problème de gardien, parce qu'il y a deux gardiens qui ont joué depuis le début de la Coupe du Monde. Donc tu étais d'accord, Geoffrey, c'est défense, c'est pas top.
Ah non, la défense c'est catastrophique. Et puis bon, le seul qui tenait un petit peu la baraque, il est sorti. Isaac Yarn, il s'est blessé là au ischio, contre le Japon, il sort. Donc non, le gardien remplaçant. On est un petit peu à la période, vous savez, Loris Mandanda au tout début. Bon là, on est à peu près dans la même situation. Il y a un grand gardien qui est parti, qui a arrêté, même s'il est encore là dans la troupe, mais il arrête. Robin Olsen. Là, t'as deux gardiens un petit peu en concurrence.
Non, pas Thomas Ravelli.
Ah mon Dieu, ça fait longtemps, lui, tu sais. Mais ça rappelle des bons souvenirs, parce que 94, c'est la Coupe du Monde aux États-Unis. La Suède, c'est la troisième. Et pour les Suédois, cette Coupe du Monde aux États-Unis, le fait qu'on y aille, ça ramenait pas mal de souvenirs. Donc ouais, les Ravelli, les Dalin,
Brolin,
Stéphane Schwarz et tout ça, c'était sacré époque.
Un magnifique maillot à l'époque également de la Suède.
Ouais, mais c'est toujours beau. Mais à l'inverse, pour ce que je disais tout à l'heure au mec qui m'appelait, j'ai oublié le prénom, on est à l'inverse, on est assez content. Ouais, pardon, excuse-moi. Mais on est à l'inverse, on est assez content de pas jouer la Norvège.
Si la Norvège avait battu et avait terminé premier de la poule, ça aurait été Suède-Norvège, une sorte de derby.
Ouais, c'est ça. Et en fait, juste avant le mondial, on a fait un Suède-Norvège. Ils nous sont venus à la maison, ils nous ont mis une petite correction. Et les Norvégiens, les supporters norvégiens, disons qu'ils s'apprécient énormément. Et ils aiment bien nous rappeler qu'ils sont...
Tu veux dire que le Norvégien a le boulard, c'est ce que tu veux dire?
Voilà, c'est ça, on peut le dire.
De façon générale ou juste le footballeur?
Non, juste pour le Suédois, envers le Suédois. Non, d'une manière générale.
Ah, d'accord. Après, de manière générale, le Norvégien, le boulard.
Il faut quand même dire que la Norvège est un des pays les plus riches du monde, donc peut-être qu'il se la raconte.
Alors, genre riche, on se la raconte, non, c'est ça l'idée.
Si tu veux,
bravo Kevin.
Peut-être qu'il se la raconte un peu par rapport aux frérots suédois.
Toi, t'es pas spécialement riche et t'as le boulard, donc quel est le problème?
Il a pas tort. Moi, j'habite pas très loin.
Ça reste à voir si je suis pas spécialement riche.
Quel est l'ennemi numéro un du Suédois? C'est plus le Danois, le Norvégien ou le Finlandais?
Non, c'est le Danois.
C'est le Danois,
c'est un peu l'anglais pour les Français, quoi. Non, les Norvégiens, ça a longtemps été des paysans, quoi. Donc, là, c'est des nouveaux riches, mais ils ont longtemps été des paysans, quoi. Ça se voit encore un petit
peu. C'est quoi qu'ils ont là-bas? C'est du gaz ou c'est.
Le pétrole,
Norvégien. Pétrole.
C'est marrant, dans le sac jaune géographique, t'as quand même ces espèces de petites rivalités avec les
Vikings.
On est toujours le cutéreux de quelqu'un. Quoi.
Tu te souviens de Raphaël Poiré, le biathlète français?
Oui.
Qui était marié avec une Norvégienne, biathlète norvégienne. Et ben, après sa carrière, il a bossé sur les plateformes pétrolières en Norvège.
Ouais. Et c'est historiquement.
Rien à voir avec le football.
Historiquement, les Vikings, c'est les vrais Vikings, ou je sais pas s'il y a les vrais ou pas des vrais.
C'est plus les Danois.
Les Vikings,
je pensais,
c'est qui
moi.
Alors?
Ça dépend où. En France, c'est plutôt les Danois qui sont venus. En Grande-Bretagne, c'est plutôt les Norvégiens. Les Vikings suédois, c'est plutôt vers l'est. Tu sais, les par exemple, la Russie, on va dire comme ça, fondée par des Vikings suédois. Hein, Kiev, tout ça, c'est des Vikings suédois. Donc, ils sont descendus jusqu'en Iran, hein, pour le coup. Hein, tu retrouves les gardes d'élite des empereurs en Iran, c'était les Vikings suédois.
Oh, okay. Magnifique. Bah, écoute, Geoffrey, merci pour ce moment d'histoire.
Des gens très sympas.
Et j'avoue que tu nous as pas beaucoup fait trembler au niveau du foot. Là. Donc,
je pense pas que ça tremblera.
Je veux dire, on passe un week-end tranquille, c'est ça?
Vous avez quand même une belle attaque.
Oui, moi je pense que la France peut y aller.
Par contre, donc rendez-vous le 4 juillet pour les Bleus, quoi.
Ouais, ce qu'il disait Graham Potter, c'est le sélectionneur, il disait la seule petite chose qu'on pourrait profiter, c'est si les Français arrivent trop détendus. Donc
Oui, mais je pense que ça ne va pas arriver.
Et puis alors pour finir, sachez que Zlatan Ibrahimovic, consultant pour la chaîne américaine Fox ici qui retransmet les matchs, a dit la France est largement favorite. D'ailleurs, je les vois même gagner la Coupe du Monde. Lui, l'ancien international suédois, il donne quasiment zéro chance à la France. Ah, à la Suède, pardon, à son équipe. Merci Geoffrey.
Merci à vous les gars.
Salut Geoffrey.
À bientôt. À bientôt. Je retiendrai de cette conversation que donc les Vikings suédois ont été les gardiens de l'homme au pouvoir à Kiev.
Voilà. C'est beau.
Voilà. Et aussi que Kevin a vraisemblablement pas mal dosé de côté.
Ah, visiblement. Je l'avais pas dit, mais.
Il n'est pas trop en corrélation avec les salaires qu'il donne à ses joueurs de Saint-Maurice.
Il y a de la caillasse bon. Chez les Diaz.
Ah, mais c'est pas moi qui suis le propriétaire de Saint-Maurice.
Ah, on se le demande bien pourquoi, tiens.
Allez, les deuxièmes mi-temps, ça a démarré, Aurélien, entre le Panama et l'Angleterre. Est-ce que vous savez comment on surnomme l'équipe panaméenne?
Bah, les chapeaux.
Non.
Les têtes d'ananas.
Los Canaleros. Ah. En gros, ceux du canal.
Ouais, les mecs du canal.
Les mecs du canal.
Alors, rien à voir donc avec les têtes d'ananas.
L'hymne, c'est même l'hymne isménio, l'hymne des Istiens. Ils sont à fond sur l'isthme et le canal du Panama.
La tête d'ananas, c'était en référence à Noriega, bien sûr.
Oui,
tout le monde connaît l'histoire.
Bien sûr.
0-0 en tout cas. Non, c'est plus intéressant que le match, pour dire la vérité. 52 minutes, 0-0 toujours. Ouais, bah déjà il pleut plus.
Bah, il est là en face, on voit le stade là, il est sous la pluie.
Est-ce que t'as vu Nico Jamin?
Mais non, ils ont pas osé sortir avec la pluie, je pense. Ils sont restés en press box.
Dis donc,
derrière les vitres.
Nico Jamin aurait pas un peu la poisse? Tous les matchs qu'il va, ils sont pas bons.
Pourquoi?
C'est à creuser.
De toute façon, les matchs qu'il va, il
attention le centre avec le. Non, ça passe au-dessus. C'est un miracle pour le Panama. Il y a Harry Kane et il avait perdu le ballon des yeux. Oh. Et les défenseurs panaméens se tirent l'un dans l'autre. Et ça passe par miracle au-dessus de la barre. Corner à venir pour l'Angleterre. Toujours 0-0 après 52 minutes.
Bon, on va rester avec toi pour le corner.
Allez parce que.
Ils ont été vénères.
Ah bah. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, monsieur l'arbitre, estime qu'il y avait peut-être une action.
Il y a main de Kane.
Main de Kane, alors ça va être un dégagement à venir. Toujours 0-0. Et l'Angleterre, si je dis pas de bêtises, est toujours deuxième de son groupe pour l'instant, donc face au Portugal ou à la Colombie en 16e de finale.
Et la Croatie mène à 0 face au Ghana. Les Croates pour l'instant sont virtuellement premiers. Clément Brossard, c'est reparti à Philadelphie.
On est parti depuis 5 minutes, toujours un but à 0 donc pour Leva Treni. Le but de Susic à la 31e minute. On a une petite mais très légère tentative du Ghana dans cette seconde période. C'était la deuxième frappe pour les Black Stars dans cette partie. Mais vraiment le niveau de jeu est. Et pas dingue non plus, hein. Aujourd'hui à Philadelphie, même les Croates sont en gestion, on arrive assez peu à trouver notamment Ante Budimir qui est la pointe de l'attaque croate, avec un Luka Modric qui est là au milieu du jeu, qui organise comme à son habitude en vrai maestro et qui vraiment met le tempo de cette rencontre. C'est lui qui gère un petit peu tout sur coup de pied arrêté. À l'instant, peut-être c'est la seule manière, on a l'impression, pour les Ghanéens de venir faire trembler les Croates. Et même les joueurs de tête comme Jordan Ayew ne sont pas dans la surface de réparation parce que c'est lui, le capitaine, qui va pouvoir la frapper. L'ex-Marseillais qui va mettre ce ballon au second poteau pour aller chercher une tête. Finalement, ça passera devant tout le monde, sera récupéré par les Croates. Carlos Queiroz, le sélectionneur, qui lui joue son 16e match de Coupe du Monde, enfin joue coach son 16e match de Coupe du Monde.
À chaque fois il envoie des équipes qui régalent,
hein. Ouais, on pense à son
lui,
Qatar,
il aime le foot,
notamment.
Hein. Queiroz, il aime le foot, à dire qu'il a été adjoint d'Alex Ferguson pendant des années et que c'était un très bon adjoint. Mais alors en entraîneur principal, mon Dieu, quel maçon.
Il y a des pattes parfois qui ne prennent pas. Et il a fait deux changements, Carlos Queiroz, avec Adjeté qui est remplacé par Kocho Opong, le défenseur central.
Je ne faisais aucune blague, je parlais de ses systèmes tactiques.
Non, mais vu les origines, faire un bon mur, c'est normal.
Oui, d'accord, mais je ne faisais même pas de l'ironie. Je disais juste que ces équipes sont souvent moches.
Bon, à tout à l'heure, Clément. Donc,
ouais, Clément,
on
ne
va pas
salut.
Bouger pour l'instant. Deux, trois infos équipe de France. Alors, déjà vous dire que M6 est ravi du score des Bleus hier. C'était hier. Presque 14 millions de téléspectateurs ont suivi le match. Un excellent chiffre, nous dit le diffuseur.
Mais alors, effectivement, ils sont contents et pour l'instant, tout va bien. Mais on sait quand même, et ça, c'est une réflexion qui va entrer dans le fameux débat qu'on a quasiment tous les jours sur la Coupe du Monde à 48, c'est sur le nombre de matchs. Au final, M6 le sait, ça ne va pas être rentable. Malgré les pubs...
Déjà sur TF1, ça ne l'était pas.
Malgré les pubs Hydration Break et compagnie là. Donc ça veut dire que même en rajoutant ça, M6 qui également dans un souci d'image a voulu casser la tirelire pour aller choper la Coupe du Monde sans rétrocéder des matchs, ne fera pas mieux que TF1 et donc ça va pas être rentable. Mais à terme, votre histoire de c'est formidable qu'il y ait une Coupe du Monde plus large, si ça ne marche pas, parce que il faut quand même le dire, c'est comme quand on avait les débats autour de la Ligue 1, ce qui fait rentrer l'argent dans les caisses, c'est les diffuseurs. si les diffuseurs au bout d'un moment ne veulent pas venir.
En Coupe du Monde, t'as aussi les gros partenaires de la FIFA, les Visa et compagnie.
Ok, d'accord. Sans les télés,
sans les présentes du monde quand même.
Ok, sans les télés, on va nulle part. Oui, oui, mais tes partenaires là viennent parce qu'il y a les télés. Mmh. Parce que si on peut pas les voir, tes partenaires, si on peut pas voir les pancartes Visa sur les télés, et si les audiences ne sont pas bonnes.
Alors, je vois où tu veux en venir, mais Daniel, là, tu parles de la France. Mais il faudrait regarder tous les marchés.
Et moi, tu regarderas
les marchés. Est-ce que c'est rentable pour Fox aux États-Unis?
Tu regarderas les marchés, mais on ne peut pas, dans un marché baissier en termes de football, nous faire croire que cette Coupe du Monde à 48 intéresse. Toi, tu peux la défendre autant que tu veux tous les jours.
En France.
Non mais tu crois que c'est des marchés porteurs tous les équipes
mais ce n'est pas la même chose et ça dépend de toute façon il y a quelque chose que je ne comprends pas. En Coupe du Monde, les joueurs ne sont pas payés par leur sélection. Ils ont des primes mais ils n'ont pas un salaire faramineux. Donc attends, juste pour dire, oui. C'est que pourquoi est-ce que la Coupe du Monde serait si chère à diffuser? Si, puisque les joueurs, on n'a pas à les payer, les acteurs, ils sont quasiment gratuits, entre guillemets.
Okay, ça, tu élargis à une autre question.
J'élargis à la question qui veut que, aujourd'hui, si la FIFA demande de tels prix, c'est qu'en face, ils considèrent que le produit le vaut. Puisque là, pour le coup, il n'y a pas, c'est vraiment juste pour de la redistribution.
Comme c'est tous les 4 ans, j'imagine que. Mais puisqu'ils ont multiplié le nombre de matchs et que ces matchs-là intéressent de moins en moins les gens, parce qu'il n'y a pas de raison que tu fasses des grosses audiences sur Panama, Angleterre.
C'est toujours pareil. C'est l'économie de base qui veut dire que intéresser moins de gens peut-être dans les grands pays, mais tu intéresses plus de gens dans le monde entier. Tu intéresses, plus il y a de consommateurs
Sauf que tous ces pays-là ne sont pas porteurs économiquement. Pourquoi? Donc on fera le bilan. Tu feras le bilan à la fin. Et tu verras que si dans 3-4 pays qui donnent beaucoup d'argent, sur la prochaine on dit nous on va donner beaucoup moins. J'attends de voir si c'est extensible à l'infini.
La FIFA s'est déjà réjouie des résultats économiques de cette Coupe du Monde. Hein.
Vous comprenez pas ce que je dis là. Il n'y a pas beaucoup de programmes.
Que la FIFA se frotte les mains, c'est une chose. Mais si, une fois que TF1 a perdu de l'argent et ne s'est pas battu pour cette Coupe du Monde.
Ils s'en foutent de la France. C'est pas la France qui va les faire ou pas.
Parce que tu crois que tous les pays sont pas la même chose. C'est pas la même chose partout.
Il y a un truc que tu prends pas en considération, c'est que là il y a une question d'image. Et quand c'est la Coupe du Monde, c'est un événement fédérateur pour les Français. Donc TF1, M6, même si ça leur coûte de l'argent, ça ramène du monde sur la chaîne. C'est le diffuseur officiel.
À mon avis, vous êtes en train de le faire exprès parce que c'est ce que j'ai dit il y a 5 minutes. T'ai dit, M6 y est allé pour l'image.
Donc ils continueront d'y aller pour l'image.
Non, une fois TF1 y est allé et n'y va plus. Une fois qu'M6 a donné, et ils ont donné même pour la prochaine, et qu'ils ne vont pas gagner d'argent. Petit à petit.
Rien ne dit qu'ils iront pas pour celle d'après.
Oui, c'est déjà signé celle d'après.
On t'a dit que peu importe qu'ils gagnent de l'argent, c'est pour l'image. Ils n'en partent pas une tonne non plus.
Ce raisonnement-là, je l'ai entendu pour la Ligue 1 pendant des années. Ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement ce qu'ont fait les gens à la LFP pendant des années. Mais tu sais, c'est pareil dans tous les pays. Au bout d'un moment, quand tu vois trop de matchs et que c'est pas intéressant et que les matchs n'intéressent pas tout le monde, tu crois qu'en Angleterre,
Mais au Portugal, ils regardent le Portugal et le Brésil majoritairement.
Voilà.
Ça a toujours été comme ça dans les Coupes du Monde.
Sauf que ça coûte de plus en plus cher. Donc, moi, je te dis que croire qu'en multipliant le produit, non seulement tu l'améliores, mais tu le rends rentable, c'est une erreur. Et petit à petit, vous verrez qu'on rencontrera les mêmes problèmes qu'on rencontre dans les autres sports.
Je te
signale qu'aujourd'hui,
Daniel, regarde les grandes enseignes de vêtements. S'ils font des magasins dans le monde entier à foison, c'est bien parce que ça marche mieux que d'avoir que deux magasins sur la 5e avenue et sur les Champs-Élysées.
Regarde Louis Vuitton, patron d'M6,
soit Louis Vuitton, H&M, Zara ou tu veux, il y en a partout dans le monde maintenant, il y en a partout. Avant, Louis Vuitton fallait venir à Paris quasiment ou à New York, mais maintenant tu en as partout je t'explique que si dans l'économie de base, déjà pour vendre juste des vêtements ou des sacs, je peux te dire que si ils sont en train de se globaliser et d'être présents au maximum d'endroits possibles, c'est normal que pour la FIFA, pour montrer des matchs, pour faire une compétition comme la Coupe du Monde, ils veuillent aussi, que ça me plaise ou non. Moi, ça me plaît pas de voir Nouvelle-Zélande contre l'Iran. Ça m'intéresse pas. Plus qu'un autre match, j'aurais préféré qu'il y ait toujours 32 équipes. Mais s'ils le font, c'est dans une économie globalisée où ça se passe comme ça dans tous les domaines.
Bon, allez, avançons, les gars. Avançons.
On verra les résultats. Je suis pas du tout sûr, moi.
Je pense
même que c'est le contraire.
Il n'y a pas eu de but marqué. Il y a quand même une belle occasion pour Harry Kane il y a quelques instants, Aurélien,
ouais,
face au Panama.
Ouais, une frappe à l'entrée, à droite de la surface de réparation, bien repoussée par Mosquera, un gardien qui joue en Arabie Saoudite et qui fait plutôt un bon match malgré tout sur les quelques frappes cadrées. Mais là, il y a Jarel Kwanza qui sort en boitant. Et le problème, c'est que c'était le remplaçant arrière-droit de Rhys James qui est à minima forfait pour ce match-là et les 16e de finale. Donc là, il va falloir trouver une troisième solution au poste de latéral droit qui n'est pas naturelle pour le moment. Jet Spence va probablement rentrer donc sur son faux pied puisqu'il est habituellement latéral gauche. 0-0 entre le Panama et l'Angleterre. Il va rester une demi-heure à jouer alors que l'Angleterre doit absolument gagner. Il y a un corner d'ailleurs, est-ce que il va être joué rapidement? Peut-être pas. Si, allez, on va y aller. Bukayo Saka de la gauche du terrain, donc avec son pied gauche, ce sera sortant. Il y a Harry Kane au deuxième poteau. Il a marqué deux buts lors du premier match. Allez, un petit peu. Et ben voilà, ça y est, c'est Jude Bellingham, la reprise du pied gauche, un corner joué à mi-hauteur et Jude Bellingham débloque enfin ces Anglais qui étaient très 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 moyens depuis le début du match. 1-0 pour l'Angleterre et ça suffit pour passer en tête du groupe.
Mais qu'est-ce qu'il est intelligent, ce Jude Bellingham, comment il a réussi à glisser son pied là juste devant le défenseur panaméen. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas des grands fans de Jude Bellingham, mais moi j'adore ce joueur, quelle intelligence. Là il la met du gauche et franchement c'est un but qui n'est pas très beau, mais qu'est-ce qu'il est malin.
Bah, c'est un super joueur, mais il te pourrit pas mal de vestiaires quand même. Bah, si, bien sûr, hein. Tourelle l'a dit, il a fallu le cadrer et avoir beaucoup, beaucoup de discussions pour finalement l'emmener à la Coupe du Monde. Hein. Il a été question que ce ne soit pas le cas, tu le sais très bien.
Cantona était facile, Ginola était facile. Il y a quand même beaucoup de grands joueurs dans l'histoire qui avaient un sacré caractère et qui n'étaient pas forcément faciles à gérer.
Je te dis.
Gascogne et compagnie.
Gascogne n'était pas compliqué, Ginola n'était pas compliqué du tout.
C'est vrai que c'est un but de chenapan.
Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Les exemples que tu as donnés sont pas bons.
Il y a des tempéraments.
Oui, en l'occurrence, il a fallu le cadrer.
Après, c'est pas un tir au flanc non plus, le mec. C'est peut-être qu'il veut jouer dans une certaine position, dans une certaine manière.
Je signale que c'est lui qui a fait amende honorable pour être là. On n'est pas allé vers lui, c'est lui qui a fait amende honorable.
Ça fait preuve d'intelligence.
Et il a pourri le vestiaire du Real cette année aussi.
En tout cas, il permet à l'Angleterre de mener 1-0. L'Angleterre reprend la tête du groupe. Les Croates aussi mènent 1-0 face au Ghana. Et il reste une demi-heure à jouer dans ces matchs.
Bien les mecs qui pourrissent les vestiaires. J'ai remarqué.
Pourquoi?
Bah, par exemple, Neymar, ce genre de gars-là.
Neymar, il a pourri tous ses vestiaires.
Neymar, tu sais où il était il y a 3 jours là, en plein rassemblement au Brésil et tout, il était en boîte de nuit à New York. Je pense que c'est bien ça, ce genre de truc.
Écoute, moi je l'ai pas vu, donc j'y étais pas. J'y étais aussi en boîte de nuit à New York.
On l'a pas vu.
Je vais te le montrer tout de suite.
Ok, je l'ai pas vu. Mais non, je suis pas particulièrement fan des gens qui pourraient se les vestir.
Bah, je sais pas, à chaque fois j'ai l'impression que tu défends des.
Ah non,
Allez, on revient sur l'équipe de France dans quelques instants. Et on parlera de Bielsa avant 1h du matin également. La nuit de l'after continue jusqu'à 6h. On se retrouve tout de suite sur RMC.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
RMC, Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, c'est tout à l'heure de 9h à midi avec Philippe Saint-André, Cédric Emmons, Marion Bartoli et Jérôme Pinault. On reviendra sur la finale du top 14 en rugby entre le Stade Toulousain et Montpellier, du football à 2 jours de France-Suède en 16e de finale de la Coupe du Monde. L'enflammade autour des Bleus est-elle un danger? Et puis on parlera d'un retour fou, celui de Serena Williams à 44 ans à Wimbledon. On vous attend au 32-16. À tout à l'heure, 9h sur RMC.
Les grandes gueules du sport, les samedis et dimanches, 9h midi sur RMC.
Chauffeur VTC, vous assurez sur la route. Clients, courses, développement de l'activité. Mais pour sécuriser vos revenus, il vous faut un vrai statut.
Avec Sterling, devenez entrepreneur salarié et gardez votre indépendance. On s'occupe du reste. Administratif, fiches de paie, chômage, retraite, mutuelle. Besoin d'une voiture? Sterling vous propose des locations sans caution.
Votre ambition mérite un vrai statut. Inscrivez-vous sur sterling.com, Sterling, avec le code DRIVER. 100€ offerts avant le 30 juin.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 23 en France, il est 18h23 ici dans le studio américain de l'After Foot. La nuit de l'After continue jusqu'à 6h du matin. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans les matchs en cours? Croatie-Ghana, Clément.
Non, parce que les Croates gèrent plutôt bien et à chaque fois qu'il y a une opportunité en contre-attaque pour les Ghanéens, c'est très très mal joué, à l'image de ce contre amené par Souleymana, le joueur de l'Atalanta Bergame. Ils sont à 3 contre 2, il a Semenyo sur sa gauche et il la rend directement à Soutalo, le défenseur croate. Vraiment, ils sont pas dedans, ces Ghanéens, depuis le début de la Coupe du Monde. Ils sont très, très, très décevants. Et la Croatie en profite, mène 1-0 après 63 minutes de jeu. Le but de Susic à la 31e.
Panama-Angleterre, Aurélien.
1-0 pour l'Angleterre, 25 minutes encore à jouer. Le but de Jude Bellingham à la 62e. Et bon, on s'excite plutôt pour l'apparition de David Beckham à chaque fois sur les écrans géants. Ça fait 3 fois, il y a eu 3 ovations. Donc on en reste là. Et Harry Kane s'est créé une position de frappe, mais ça a été contré encore une fois par une bonne défense panaméenne qui n'a pas explosé pendant ces matchs. Mais le Panama qui se dirige vers une 6e défaite en 6 matchs dans son histoire en Coupe du Monde.
Voilà, David Beckham qui est retraité depuis longtemps, mais on voit que lui aux États-Unis. Ah, il est dans 250 pubs.
Il est dans toutes les pubs. Il n'y a pas une pub où il croque pas.
Il est partout. Il est très fort. Alors, l'équipe de France, je voulais quand même revenir donc sur les déclats de Dembélé d'après-match qui dit finalement, moi je préfère mon match contre le Sénégal, voire même celui contre l'Irlande, le match amical contre l'Irlande du Nord, où j'ai été beaucoup plus influent. Alors qu'hier, il a mis un triplé. Alors pourquoi, comment interpréter cet avis de Ousmane Dembélé?
C'est l'histoire du poker menteur, c'est-à-dire que il prend tout le monde à contre-pied pour dire que il s'est trouvé meilleur dans le jeu malgré.
Harry Kane, la tête d'Harry Kane, ça fait 2-0 pour l'Angleterre. La logique est respectée, le petit Panama va se faire battre par l'Angleterre. Ça va mieux quand même. Harry Kane pèse et Harry Kane marque encore 2-0 pour l'Angleterre.
Passe D de qui? Du copain de Daniel.
De Jude Bellingham.
Mais moi j'aime beaucoup ce joueur, je te dis juste de plaisant.
Tout en nonchalance, mais c'est vrai qu'il a un body language qui est assez particulier, t'as l'impression qu'il glande un peu et puis en fait tout est chaloupé, tout est précis techniquement.
Non mais Bellingham c'est du talent pur, hein. Pied droit, pied gauche, de la tête, il peut jouer 9, il peut jouer 8, il peut jouer 10.
Mais d'ailleurs moi je le préfère 10. Hein.
Ouais.
Le plus bas sur le terrain. Moi j'aime bien.
Là ils sont à 2-8 là.
Moi plus haut, je le préfère. C'est un gars qui a une belle frappe, qui a une qualité de passe. Comme tu le dis, tu lui fais plein de compliments techniques et t'as raison. Moi ce gars-là, je le mets plus haut. Quoi. Je vois pas pourquoi il doit être si bas sur le terrain.
En plus,
là, t'as pas Declan Rice, mais quand Declan Rice est là, pour moi, Rice il est essentiel dans cette équipe. Donc la question se pose pas. Bellingham derrière Harry Kane, c'est une doublette de feu. Quoi.
Parce que là, c'est centre du gauche hein, en plus, Aurélien. Fin de centre du droit, centre du gauche.
Exactement.
Ouais. Appel dans le demi-espace. Super
d'ailleurs, il a marqué du gauche aussi. Hein. Il a marqué du pied gauche aussi.
Ouais.
Mais il protège parfaitement son ballon. Physiquement, il est là.
Ouais.
Et d'ailleurs, Morgan Rogers, au début de la compétition, on l'avait dit dans l'épisode After Coupe du Monde Angleterre, Julien Laurence et Andy Brassel, qui est un journaliste anglais. Morgan Rogers, sur le papier, était le petit chouchou, le petit favori de Thomas Tuchel pour prendre la place de Bellingham comme numéro 10. Et finalement, vous l'avez dit, il a fait amende honorable, il est revenu, il a défendu, il s'est impliqué dans le groupe et c'est l'homme fort avec Harry Kane comme prévu. C'est la fameuse hydration break, 2-0 pour l'Angleterre face au Panama. Donc l'Angleterre, pour l'instant, prendrait la tête du groupe et pourrait affronter par exemple le Sénégal à Atlanta.
Exactement, la pause pub donc sur les deux terrains. Donc Bouy Dembélé, tu veux rajouter quelque chose?
Non, juste pour finir, en fait là on a un Ousmane Dembélé avec cette déclaration un petit peu en mode vous ne pouvez pas comprendre, c'est-à-dire un petit peu en mode Luis Enrique, c'est-à-dire que vous voyez que les matchs où je suis bon parce que j'ai marqué des buts, alors que un peu comme l'avait dit Kylian Mbappé en conférence de presse quelques jours avant, comme quoi ça avait été le meilleur français dans la première mi-temps contre le Sénégal.
Et toi qui comprends le football?
Non mais moi Ousmane Dembélé ça reste un joueur qui est très déroutant et qui de toute façon doit jouer en équipe de France. Par contre, l'animation qui est mise en place par Didier Deschamps, elle est très différente de celle du PSG, donc je peux comprendre qu'on se pose des questions. Maintenant, c'est aussi à Ousmane Dembélé de répondre et de répondre comme il l'a fait là, c'est-à-dire en mettant quasiment 3 fois le même but. Voilà, crochet. On ne sait pas si t'es droitier, t'es gaucher, Ousmane Dembélé.
À l'arrivée, moi, je lui demande même pas de mettre un triplé. Je lui demande de réaliser des belles performances. Moi, si lui estime qu'il a été bon, moi, je pense plutôt que Mbappé l'a défendu à juste titre et de fort belle manière parce que c'est le capitaine. Et n'oublions pas que Deschamps avait dit le contraire, lui, en conférence de presse. Donc, je suis plus sur la ligne du sélectionneur. De toute façon, on sait tout ce que Dembélé peut apporter dans une équipe. Il faut juste, après avoir pendant 2 ans joué à un autre poste dans un autre système, qu'il ingurgite et qu'il se mette dans ce système-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas en danger. Il n'est pas en danger dans le sens où il est titulaire et qu'il ne bougera plus. On en a maintenant la certitude. Donc même s'il n'a pas été bon, parce que j'estime qu'il ne l'a pas été dans les matchs d'avant, Là, il a été meilleur. Et même si tu peux relativiser sur la qualité de l'adversaire, mais t'en as plein des joueurs dans cette Coupe du Monde qui ont mis des buts. Et à chaque fois, il fallait qu'on relativise parce que c'était
Ronaldo.
Contre des équipes. Exactement. Parce que c'était contre des équipes plus faibles et tout. Donc, prenons la matière brute. D'abord, Dembélé est à l'aise. Il est en phase avec ses coéquipiers. Il est taquet pour réaliser une grande Coupe du Monde. Il est dans le système. Et c'est avec ce système-là que les Bleus vont avancer dans cette Coupe du Monde. Il n'y a aucun problème. Quand il n'a pas été bon, on l'a dit. Quand il est bon, on le dit. Après, il y a évidemment le débat que je veux bien admettre quand il vient sur les réseaux faits par des gens qui ne sont que fans et qui ne comprennent rien et qui pensent que quand tu commentes le foot, il ne faut dire que des choses positives et que tu n'as pas le droit de dire quand quelqu'un n'est pas bon. Parce que sinon, quand il est bon, tu dis hey, qu'est-ce que t'avais dit. Mais il y a souvent ce débat également parfois alimenté par des professionnels et ça je ne comprends pas du tout parce que après il est vrai que dans notre métier à l'intérieur des journalistes sportifs il y a une école qui était l'école Canal, Charles Guettry, machin, où t'es pas là pour dire ce qui se passe sur le terrain, t'es là pour véhiculer l'émotion. Donc quand ça se passe pas bien, tu fermes ta gueule, tu dis rien. Il y a beaucoup de commentateurs qui te disent ça. Ils sont pas journalistes. Ils sont là pour faire de la promo. Voilà. Et après, quand un mec a pas été bon, que t'as dit qu'il était bon et qu'il est bon le match d'après, oui, ils te le mettent dans la gueule. Mais eux, ils ont jamais pris un risque de leur vie. Ils disent jamais rien. Ils sont là juste pour commenter et dire que tout est formidable et qu'il fait beau, même quand il pleut. Et eux, ils ne comprennent pas que tu puisses dire machin. Ils te disent, c'est des discussions de bistrot, c'est ça. Donc, en politique, on a le droit. En cinéma, on a le droit. En économie, en géopolitique, pour les relations internationales, tu peux.
En restauration.
Tu peux dire des choses, il n'y a pas de problème. Tu peux dire quand quelque chose ne va pas. Et quand il y a une progression, une amélioration, tu peux dire, ah ben là, ça va mieux parce qu'il s'est passé ça et tout. En sport, alors que pourtant, toi qui as été sportif de haut niveau, tu le sais, ces gens-là sont des machines. Vraiment, un sportif de haut niveau, à ce niveau-là, joueur de tennis pro, joueur de football professionnel, c'est des gens qui ne sont pas comme nous. Ils sont élevés dans le culte de la performance. Et ils sont là pour offrir de la performance. Et ils sont éduqués, élevés à la performance. Donc, quand ils ne sont pas dans la performance, d'abord, ils sont frustrés. Ils ne s'en foutent pas. C'est dans leur chair. Et je pense que si Dembélé n'avait pas été frustré, il n'aurait pas répondu comme il a fait hier, avec le petit geste, un peu genre, bon, taisez-vous maintenant. Ou... Ouais. Et moi, ça ne me gêne absolument pas.
Moi non plus, pas du tout.
Ça ne me gêne pas. Au contraire, ça veut dire que ça lui fait du bien. Ça veut dire que ça lui fait du bien et que ça le libère. Et d'ailleurs, tous ceux qui disent il a été bon là, vous auriez pas dû le dire et tout. Si c'était le cas, tous les joueurs de l'équipe de France qui sont allés lui faire la fête quand il a marqué, ben ils ne l'auraient pas fait de cette façon. Là, on est bien d'accord que là il y avait quelque chose de fort. C'est tu as été en difficulté, nous venons te féliciter, on est avec toi, on te lâchera pas.
On est ensemble.
Et ça c'est super. Ça c'est super et ça nous on est là pour le remarquer, pour le noter. Donc après il y a les fans. Les joueurs, les joueuristes, là, je sais pas comment on les appelle, ou les clubistes, ou les machins, eux, ils sont aveugles. Je les compare tout le temps aux militants politiques qui, même quand leur chouchou a tapé dans la caisse, ils disent c'est pas grave, les autres ont fait pire. Voilà, ça, c'est l'aveuglement que je ne comprendrai jamais en quelque matière que ce soit. Moi, je préfère être dans le camp. Ça va pas, je le dis, je donne mon avis, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça va bien, tant mieux. Dembélé, j'ai beaucoup aimé là. Et surtout, là où en revanche, j'accepte la mise au point du débat, c'est d'avoir cru que l'ADN Deschamps finirait par ressortir. Or, je crois que non, il en a changé. Et il veut y aller comme ça, et il ira comme ça. Ça veut dire
il pense qu'il va gagner comme ça.
Exactement. Bah, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, nous l'admettons.
Ce que tu as dit, c'est très juste. Et moi, il y a une phrase que je sors souvent quand j'échange avec des joueurs ou avec des agents. Arsène Wenger, j'aime pas tout ce qu'il a fait sur les dernières années, mais j'avais vu cette fameuse conférence où il dit la plus grande qualité d'un sportif de haut niveau, c'est pas forcément les qualités footballistiques, c'est pas forcément les qualités physiques ou même tactiques, etc. C'est d'avoir une haute capacité d'auto-analyse. C'est-à-dire les meilleurs sportifs sont ceux qui arrivent à savoir après un match, après une compétition, ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de moins bien, pour pouvoir ensuite travailler dessus et surtout être très lucide, comme disait Daniel, sur leur performance, voire sur la performance de l'équipe. Et donc, c'est pour ça que nous, on est là aussi pour rappeler, en tout cas, ce qu'on voit avec nos yeux à nous. Mais moi, j'ai aucun problème avec Ousmane Dembélé qui est un peu agacé parce qu'il a entendu des critiques, alors que lui, il s'est senti peut-être pas étrange.
L'égalisation pour le Ghana, avec ce coup franc bien frappé au second poteau et qui passe devant toute la défense croate. Et derrière, eh bien, c'est Derek Lukasen.
À la limite du jeu maintenant, Clément.
Comment ?
Le Ghana est 2 du groupe maintenant, non?
Avec ce match nul, ça fait 5 points pour le Ghana. En effet, ouais. Ils sont deuxième. Ouais. Juste derrière l'Angleterre.
Et c'est le Croatie qui fait 3 maintenant.
Il est vraiment à la limite du hors-jeu, donc il y aura peut-être une petite vérification avant de donner le classement provisoire. Mais c'est, en tout cas, ce serait une belle histoire
donc,
pour Derek Lucassen.
4 points, ça passe aussi.
Qui a 30 ans, Daniel, connaît sa deuxième sélection seulement, le joueur de Paphos. C'est son premier match en Coupe du Monde. Et il y aura une position de hors-jeu signalée par Drew Fischer, l'arbitre canadien. Alors on revoit tout ça. Moi, j'ai pas l'impression qu'il soit hors-jeu. Non, mais pas le buteur, je crois. Il y a un joueur qui est hors-jeu.
Qui est hors-jeu, il fait pas action de jeu, en fait.
Non, pas du tout. Il est au niveau du point de pénalty, le ballon est mis au second poteau. Ouais.
Est-ce que celui qui est hors jeu ne bloque pas un défenseur pour revenir?
Non, ils sont pas dans la même zone. Franchement, ils sont pas dans la même zone.
Il y a un check en cours.
Il y a un check.
Ce sera vérifié, mais ce serait un coup dur, sachant que le Ghana, souvenez-vous, s'est senti plus que frustré d'une faute qui n'avait pas été sifflée face à l'Angleterre, d'un éventuel penalty. Carlos Queiroz, on avait parlé notamment en conférence de presse. Il disait qu'avec ce penalty, bon après il n'était pas marqué, hein, mais qu'il serait déjà qualifié avec 6 points. Donc ça a fait aussi parler toute cette semaine au Ghana, notamment cet arbitrage. Donc si ce but-là venait à être annulé, ce serait très 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 sévère déjà dans un premier temps, et puis ça rajouterait un petit peu d'huile sur le feu. Donc pour l'instant un partout, mais le but ghanéen est encore checké par l'arbitre canadien de cette rencontre, Drew Fischer, qui avait arbitré notamment France-Irak d'ailleurs.
Très bien. Moi je pense qu'il va être accordé, hein.
Je vois pas comment il pourrait être refusé non plus.
Voilà, on ne remonte pas une nouvelle fois l'image, mais bon. Tu vas voir, en attendant, allons faire un tour à New York, où le Panama affronte l'Angleterre. Aurélien.
2-0 pour les Anglais, Bellingham et Kane les buteurs en seconde période. Il reste 13 minutes à jouer. Bellingham qui a été mis au frais d'ailleurs, remplacé par Eberechi Eze, le joueur d'Arsenal qui évolue désormais aux côtés de Donny Madueke, Harry Kane et Morgan Rodgers. Bon, Rodgers qui marque pas beaucoup de points, hein, parce qu'on l'attendait justement à ce poste de numéro 10, et il a fait aucune différence. 2-0 pour l'Angleterre qui recule un petit peu, mais les Panaméens ils galèrent dans le dernier geste pour l'instant, même s'ils sont braves. 12 minutes 30 encore à jouer.
Ils en mettent du temps là pour décider de ce but. Donc là, nous, on revoit Kevin et Daniel. Donc effectivement, il y a un joueur ghanéen hors jeu au moment où le coup franc est tiré.
Non, mais en fait, le joueur qui est hors jeu, il fait un bloc sur le défenseur croate. Je ne pense pas que le défenseur croate puisse avoir. Je ne pense pas que le défenseur croate puisse avoir le ballon, mais il fait quand même un bloc en position de hors jeu. Donc il n'a pas le droit de le faire.
Dans l'absolu, il fait une faute.
Voilà.
Oui, mais il fait pas action de jeu puisque ce ballon est frappé au second poteau.
Oui, mais
il vient pas empêcher un défenseur croate de défendre immédiatement sur le buteur.
Il fait pas un bloc sur un croate, il fait un bloc sur un autre ghanéen.
Regarde, non, là il est avec un croate.
Non, là, tu veux, cette image-là ne te donne pas la vérité. Il faut que l'image de dessus. Il bloque un coéquipier en fait.
Bon, moi de toute façon.
Regarde là, image du dessus.
Non, regarde, il bloque un blanc, c'est un blanc qui bloque. Mais bon, le blanc, il aurait pas pu avoir le ballon, le joueur qui a le maillot blanc, mais bon. Je sais pas si pour moi,
ils sont très très longs en tout cas à décider.
Moi je l'annule pas le but en tout cas. Pourquoi l'arbitre?
C'est la première fois que c'est aussi long.
Pourquoi l'arbitre il a des bandes rouges et blanches sur le maillot?
C'est les couleurs de son pays.
Les couleurs de son pays.
Canadien, c'est pas impossible. Oui, non, mais ça doit être ça parce que l'arbitre mexicaine avait des bandes du couleur.
La décision.
Couleur du drapeau mexicain. La décision de Monsieur Drew Fischer. L'explication. Sonore.
On va peut-être l'entendre.
Donc il n'a pas d'impact sur le but finalement. C'est ce qu'on avait annoncé en avant-première. Donc le but est validé pour le Ghana qui revient dans cette partie. Un partout, le but donc de Derek Lucassen pour son premier match.
J'ai une question pour Daniel Riolo.
Bravo monsieur l'arbitre.
Du coup,
toi
qui n'aimais pas l'américanisation de l'arbitrage avec le fait que l'arbitre explique devant le stade, je vois ton petit sourire que maintenant tu es en train de te dire que c'est pas mal.
Je m'en fous qu'il ait dit que ça peut faire.
Non, mais c'est intéressant, au moins on sait pourquoi il. Tu vas me dire que là
parce
c'est
que
pas intéressant.
T'avais pas compris?
J'avais compris parce que moi je suis spécialiste.
Mais il y a 69 000 personnes qui ont l'explication maintenant.
Et puis les téléspectateurs.
Moi l'important c'est qu'ils valident ou qu'ils valident.
Non, arrête, t'es mauvaise foi, je l'ai vu à ton visage que là tu te disais. Ah ouais, j'avoue, c'est pas.
Non, mais le mec il arrive, il dit. Le mec, il n'y a pas d'impact.
Tout le monde le sait en fait.
Tout le monde le sait.
Mais il y a plein de gens qui regardent la Coupe du Monde qui ne savent pas pourquoi.
Mais donc c'est un truc de gogo, c'est bien ce que je dis.
C'est pas un truc de gogo, le football, c'est pas que pour nous.
Toi, tu voudrais qu'il te l'explique, en même temps il te file un mug.
Mais non, vas-y,
un bug décision.
De toute façon, là tu vois les auditeurs ou les téléspectateurs sur YouTube ou l'After Télé, là ils ont vu ton visage.
Non, mais je comprends que ça puisse intéresser les gens, mais moi je m'en fous. Il valide le but.
C'est bien ou c'est pas bien?
Mais qu'il l'explique comme ça.
Oui.
Je m'en fous.
Mais tu peux pas dire que tu t'en fous. C'est bien ou c'est pas bien? C'est
oui ou non. Si ça n'existe pas,
rien.
Si ça n'existe pas, ça me pose pas de problème.
Non, moi
si ça existe, j'aimerais bien, j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus vite pour la décision, puisque nous-mêmes nous l'avions prise. La décision en deux secondes. Donc voilà.
Non, il y a moi qui l'avais prise. Vous aviez dit qu'il faisait pas action de jeu.
On validait le but, nous.
Gilbert, il disait qu'il faisait un bloc sur un joueur de sa propre.
On validait le but, je te dis.
Oui.
Les gars, Dembélé, tu veux rajouter quelque chose là sur le
développement de Daniel? Non, je suis complètement d'accord avec Daniel sur le fait que, surtout quand tu fais notre métier, mais moi c'est pareil pour Cherki, j'ai commandé Cherki pendant 4 ans avant qu'il arrive enfin à atteindre le très haut niveau, à être titulaire à Lyon. On me dit, ah ouais, mais t'étais pas fan de Cherki.
Bah, oui, alors.
Ça faisait 5 ans que je le commandais avant qu'il arrive à ce niveau-là, donc forcément.
Mais après, ne soyons pas.
Et Balerdi, c'est pareil. Et...
Ne restons pas focus et bloqués par les injonctions des réseaux sociaux.
Non, mais moi, je suis plus du tout sur X, justement, à cause de ce genre de choses.
Dans un instant, nous sommes de retour pour parler du crépuscule de Marcelo Bielsa.
D'autant que maintenant.
Ça s'est très mal passé avec l'Uruguay la nuit dernière.
T'as vu qu'on a découvert hier, quand même. Alors là, moi, j'étais vraiment pour le coup, et je suis obligé d'employer cette expression sur le cul, de maintenant ce qu'on fait avec. Je savais ce qu'on faisait avec l'IA, mais on ne me l'avait jamais fait pour moi. Et hier, il y a eu tout un passage sur. Je crois que ça a fait plus d'un million de vues de moi qui parle de Messi.
Sur TikTok,
c'est ça. Et c'est pas moi, en fait.
Ouais.
C'est une IA, j'ai jamais dit ça. C'est un passage totalement inventé avec ma voix. Je te jure qu'on s'y tromperait, quoi. Donc maintenant, il va y avoir des passages comme ça qui vont être balancés. On fait dire ce qu'on veut. Je sais pas en plus quoi faire, moi, mais là, quand on me l'a montré, je suis perdu. Là, j'ai pris une claque.
Je me suis rendu compte d'un truc hier, c'est que le passage de Kevin Diaz qui nous explique que le Japon joue avec une défense à 3, c'est aussi de l'IA. Heureusement, c'était pas lui.
Japon qui va briller dans sa Coupe du Monde avec un 4-3-3. Heureusement, tu sais qu'il y a un mec qui s'est fait passer pour toi, Kevin. Fais attention quand même.
Non, c'est l'inverse. Il avait dit que c'était à 4, mais c'est l'IA qui a dit que c'était à 4.
Vous savez même plus. Même Kevin, l'IA
nous a perdu.
Fais attention, il y a des gens qui se font passer pour toi.
Ouais.
Écoute. Voilà. En tout cas, bon, bref, moi j'ai découvert ce truc-là.
Tu sais que la loi s'est penchée là-dessus. Tu peux porter plainte.
Ouais, mais moi, on va se mettre à porter plainte tout le temps. Moi, j'ai autre chose à foutre, quoi. Tu sais, les gens, ils sont pas foutus. Mais ça, je te jure que les chiffres de vues de cette vidéo et les likes.
Mais tu disais quoi sur la vidéo?
En gros, sur la vidéo, je dis que Messi, il y a un complot pour le faire gagner, que la FIFA, va le faire, comme en 2022, va tout faire pour lui faire gagner la Coupe du Monde. Donc, je suis liké par tous les fans amoureux de Cristiano Ronaldo, par tous les enfin, c'est juste fou, mais en fait, je m'en fous, c'est juste que c'est pas moi, c'est une invention et c'est ma voix transformée. C'est horrible,
Il y a beaucoup de gens, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient à ce complot-là. Que la FIFA, machin, ils veulent que ce soit Messi.
Moi, j'en ai rien à foutre que les gens croient. Je veux juste
qu'on
se fasse pas passer pour moi dans une IA. Et c'est horrible. C'est horrible.
Bielsa, dans quelques instants. Je sais pas si,
l'intelligence artificielle est
utilisée par Marcelo Bielsa. Je pense pas.
Ah, je pense que lui-même, c'est une IA.
Peut-être.
Je pense que c'est, parce que là, il nous a fait des dingueries, quand même.
On en parle dans quelques instants et on suit les matchs, bien sûr. Il reste 10 minutes à jouer entre la Croatie et le Ghana, 1 partout. Et 7 minutes à jouer entre le Panama et l'Angleterre, 2-0 pour les Anglais. À tout de suite.
RMC After Live Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Drivois.
Minute 44 en France, 18h44 ici dans le studio new-yorkais de l'After, et un but a été marqué dans le match Croatie-Ghana. Clément.
Le but pour les Croates avec à la passe décisive l'increvable Luka Modric sur corner pour déposer ce ballon sur la tête du joueur du Torino Vlasic. Poteau rentrant avec encore une fois une très très belle précision. Il n'a rien pu faire à Sarré, le portier des Black Stars, qui avait sorti une magnifique parade quelques secondes avant sur une frappe de Pasalic. Cette fois, il est battu. Les Croates reprennent les devants de Buzyn dans cette rencontre et reprennent également la deuxième place.
Voilà, et le Ghana serait qualifié au titre de meilleur troisième également. Si on en reste là, les Anglais mènent 2-0 face aux Panaméens.
Oui, 4 minutes à jouer encore. Les buteurs Bellingham et Harry Kane, ils sont sortis tous les deux désormais. C'est Ollie Watkins, pardon, qui est entré. Pas Ivan Tony, Ollie Watkins. Et Berici Eze. Jordan Anderson également, qui a remplacé Elliot Anderson. À la frappe des Berici Eze, c'est contré par les Panaméens. Jet Paynes qui va redonner le ballon à Eze à l'entrée de la surface de réparation. C'est compliqué, c'est dégagé par les Panaméens. Pas pour longtemps. Marcus Rashford à l'entrée. Là, il est arrêté. Il va falloir avoir un gros coup de rein s'il veut se mettre en position de frappe. Il va donner en retrait à Jordan Anderson. On va faire tourner le ballon, 2-0 pour les Anglais. 3 minutes 30 encore à jouer dans le temps réglementaire et sur chaque annonce des buts croates, le stade de New York et notamment les Anglais ne sont pas contents, visiblement supporters donc du Ghana. Il y a peut-être un petit lien. Attention, Marcus Rashford encore une fois sur le côté gauche de la surface de réparation, il se remet dans l'axe, il va frapper, il tricote énormément, ça va retourner à droite désormais de la surface de réparation. Allez, 2-0 pour l'Angleterre.
2-0 pour l'Angleterre et 2-1 pour la Croatie face au Ghana. Bielsa, donc la nuit dernière, l'Uruguay sorti de façon incroyablement nulle de la Coupe du Monde. Les Uruguayens avec un Marcelo Bielsa qui pète un plomb après le match. On va peut-être pouvoir l'écouter d'ailleurs. Non, on ne va pas l'écouter. Bon, enfin bon, il y a une interview d'après-match que vous retrouvez sur rmcsport.fr qui est assez dingue. Avant le match, il avait déjà à peu près tout l'Uruguay contre lui, les anciens joueurs, beaucoup, pas mal de joueurs actuels, et l'ambiance était pourrie. On a même des éditorialistes qui appelaient les joueurs à tourner le dos à Bielsa avant le match contre l'Espagne, en disant qu'il reste au placard, disaient certains éditorialistes. Le moment est venu pour les joueurs de tourner le dos à l'entraîneur et de jouer comme ils devraient jouer, comme nous l'avons toujours fait, disaient les éditorialistes uruguayens. Avec les consignes du sélectionneur, nous avons été l'une des pires équipes du tournoi. C'est très pénible de voir l'Uruguay jouer comme ça. Et puis, bon, bah, le match est arrivé. Il faut dire que ce qui s'est passé ne leur a pas donné tort. Le pauvre Muslera, qui ne jouait plus. Hein. Muslera, c'est Bielsa qui l'a remis titulaire il y a quelques semaines, alors qu'il n'était plus titulaire en équipe nationale, lui qui est un peu le gardien historique de l'Uruguay depuis en gros 15-20 ans. Évidemment, il a été mauvais pendant toute la Coupe du Monde. Bielsa, après le match, dit bah oui, c'est moi qui l'ai choisi, hein, donc c'est moi qui dois être blâmé. Muslera, à la mi-temps du match contre l'Espagne, a demandé lui-même à sortir. C'est pas Bielsa qui l'a sorti, c'est Muslera qui a dit sortez-moi, je suis nul, en gros. Derrière, Valverde, qui était un des leaders de la fronde anti-Bielsa, a été sorti à la 60e. Bon, si vous avez vu le match, vous avez vu la tronche qui tirait. En gros, il n'était pas content du tout. Bielsa dit oui, mais moi je voulais mettre plus d'impact en attaque à ce moment-là. Bref, il n'y a plus rien qui va. Est-ce le crépuscule de Bielsa, les gars?
Alors déjà, le factuel, c'est que ce qui se dit sur cette sélection uruguayenne, à mon sens, est très exagéré. Parce que en fait, l'Uruguay ne passe pas et ne sort pas de la poule juste parce que sur deux matchs, ils se sont fait saigner par leur gardien. Contre le Cap-Vert, cette sortie rocambolesque, totalement insensée, leur coûte la victoire et donc bah 3 points. Et ils auraient déjà été quasi qualifiés à ce moment-là. Et hier, moi j'aimerais bien qu'on me dise, l'équipe favorite du tournoi à l'Espagne, j'aimerais bien qu'on me dise ce qu'elle a produit dans ce match. Parce que les Espagnols, je les ai vus vraiment moyens hier. Et sur une frappe anodine, c'est encore ce pauvre Muslera qui a crevé l'Uruguay. Et avec un match nul, l'Uruguay aurait probablement été qualifié. Ça, c'est le factuel. Le factuel, c'est que dans le jeu, dans les matchs que j'ai vus de l'Uruguay, moi, je ne les ai pas trouvés plus nuls qu'une tonne d'équipes qui vont se qualifier pour la 16e de finale. Après, l'autre débat, c'est Bielsa et ce qui est passé en Uruguay. Ça, le rapport de Bielsa avec l'Uruguay et savoir si cet entraîneur, avec ses principes de jeu, était fait pour la tradition uruguayenne et pour l'histoire du jeu et de la façon de voir le football dans ce pays, ça c'est une autre histoire. Ça c'est encore autre chose qui, je vais presque envie de dire, les regarde. Le choix qu'ils ont fait, comment, pourquoi. Et pour répondre à la question du crépuscule, ça fait bien longtemps de toute façon que Bielsa est ailleurs. Et en plus, je crois qu'on s'est toujours trompé sur ce qu'était Bielsa. Bielsa, c'est pas un entraîneur pour gagner. Bielsa, c'est un peu Maître Yoda. C'est l'entraîneur qui, par ses idées et ses principes, a pendant des années, bien plus que maintenant où il est vieux, en plus c'est un peu un savant fou, bon, il est plus vraiment dans notre monde et tout ça, a inspiré énormément d'entraîneurs qui aujourd'hui, je pense que vous ne ferez jamais dire du mal de Bielsa ni à Guardiola, ni à Luis Enrique.
En but pour le Panama!
Et non, hors jeu, Gilbert. Ah, c'est pour ça que je vous ai pas coupé. Hors jeu, a priori, bon, à confirmer, mais ça ferait 2-1 de toute façon pour l'Angleterre.
Voilà. Donc vous ne trouverez pas un grand entraîneur aujourd'hui qui dira du mal de Bielsa, parce que c'est une sorte de maître, un peu comme le maître d'école qui arrive avec ses livres et ses grands principes et ses idées sur le jeu et sur le foot. Mais ça ne veut pas dire que lui-même, de par son caractère, parce qu'on l'a vu dans toutes ses expériences, réussit toujours à les mettre en application. Il y a parfois, il crée des bons moments, il crée des belles histoires, des belles rencontres, et parfois, il crée des catastrophes et des drames parce que les mecs ne veulent pas marcher avec lui, parce que sa rigidité fait que ça colle pas. C'est pas un entraîneur moderne. Je pense pas que ce soit un entraîneur fait pour les joueurs actuels, dans la façon qu'ils ont d'être. J'ai du mal à voir comment ça peut coller, effectivement. Mais faut pas qu'on se méprenne ou qu'on se trompe sur ce qu'il est. Lui, c'est la vedette, beaucoup dans le film, c'est Obi-Wan, Skywalker, machin. Lui, c'est Maître Yoda, lui. Voilà. C'est je donne la leçon, les machins, les grands principes, et après, vous faites. Et il a été copié, et il a inspiré une tonne d'entraîneurs. Maintenant qu'il soit dépassé et fini, oui, je pense qu'aujourd'hui... Mais c'est un peu comme Ralf Rangnick, quelque part. C'est un gars, Ralf Rangnick. Quand tu regardes ses équipes,
C'est un peu comme Mourinho, malheureusement.
Elles sont pas...
Plutôt que Ralf Rangnick.
Non, mais Rangnick aussi, c'est l'homme des grands principes, l'homme du livre,
l'homme
de la pensée et tout.
Mais
ses équipes sont souvent moins belles que celles des entraîneurs qu'il a inspirés.
Oui,
tu vois, c'est souvent ça. Donc, ça n'a rien à voir avec Mourinho. Mourinho, ce serait plutôt... Est-il dépassé ou non par rapport au football actuel? Peut-être qu'il va même réussir à écrire une nouvelle page avec
l'OR.
En tout cas, pour Bielsa, c'est mon avis.
Ouais, non, mais t'as plutôt bien décrit la situation. Après, le problème, c'est que moi, j'aime beaucoup les discours de Marcelo Bielsa sur le foot et même sur la vie hors football, hors sport, parce que c'est un vrai philosophe. Il a une démarche et une réflexion qui est vraiment intéressante. Par contre, avec la sélection uruguayenne, oui, je les ai vus les matchs. Moi, pour moi, ils ont une très belle équipe et ils auraient très bien pu se qualifier. Maintenant, hier, ils sont quand même en dessous de l'Espagne. Ils ont moins d'occasions, ils ont moins d'expected goals, ils ont quand même moins de possessions. À un moment, je crois qu'à la mi-temps, il y a 80-20 pour l'Espagne quand même. Donc, Marcelo Bielsa ou pas, ça restait un match compliqué. Mais après, aujourd'hui, quand même, Daniel, et d'ailleurs, Daniel, tu le dis souvent.
Tu as aimé le match de l'Espagne hier?
J'ai pas dit que j'ai aimé, j'ai dit qu'ils ont quand même été meilleurs que l'Uruguay.
Ah bah oui, ça oui, mais franchement, donc, l'Espagne hier, c'était pas brillant. Hein.
Et puis ce gardien, c'est lui qui l'a choisi, et surtout aujourd'hui...
Et ça, c'est une erreur, parce que Muslera les a crevés.
Aujourd'hui, sans management et sans... Et je vais aller même plus loin, même si je connais pas la personne, mais sans intelligence émotionnelle, aujourd'hui, tu peux pas y arriver.
Mais c'est ce qu'on répète tout le temps.
Tu peux pas y arriver.
Et quand je le dis, on me dit tout est tactique, tout est ceci.
Non, mais toi, tu dis que c'est que management.
Je te dis que c'est du 80-20.
Non. Pour moi, il faut avoir il faut avoir tout. Aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure.
Oui, il faut avoir tout, bien sûr.
C'est comme un grand film, il faut avoir un peu
absolument,
tout. C'est comme une grande recette.
Et aujourd'hui, lui,
du sel, du poivre, du piment,
et lui, il lui manque des éléments beaucoup trop importants.
Voilà.
Lui, il lui manque beaucoup trop de choses.
Une grande recette.
Il est d'un autre temps.
Voilà, une grande recette. Il faut avoir du poivre, du sel, de l'acidité, du piment. Il faut que ce soit relevé, mais pas trop. Et le problème, c'est que Marcelo.
Lui, en gros, il fonctionnait avec
que du piment, quoi. C'est que du piment. Il y a pas du minimum de management.
Mais même à la limite, il est un peu, c'est comme un, comme un prêtre, un peu, comme le maître d'une secte, où en fait, soit il est suivi par les joueurs de façon quasi religieuse, et auquel cas, il n'a pas besoin d'expliquer. C'est en gros, il y a les grands principes, comme le livre saint, et puis ça marche parce que les mecs sont réceptifs. Il a eu des aventures, hein, les débuts du Chili, on sait comment ça s'est passé. Mais sinon, s'il y a un caractère en face de lui, s'il y a du management à créer, là souvent c'est catastrophique.
Là,
souvent ça part en drague.
Il y a une anecdote en plus que je vous ai pas dit. Donc les joueurs étaient en fronde contre lui, donc ils sont allés le voir en lui disant on n'est pas content, on veut jouer différemment. Donc lui il a dit ok, très bien, réunion. Il a parlé pendant 50 minutes. Ça a tellement saoulé les joueurs qu'il y en a qui sont partis au milieu, dont Valverde.
Mais ça c'est sûr. Après Valverde est un type très particulier. Attention,
Il est toujours dans les sales coups, lui, non?
Il est toujours dans les sales coups.
C'est pas sa saison.
Non, il est vraiment toujours dans les sales coups.
Chouamini avec le Real,
il y avait aussi
le
Xabi Alonso.
Il a fait partie de la bande qu'ont saigné Xabi Alonso aussi.
Du coup, il y avait Vinicius et Bellingham ou pas?
Aussi.
Ou les deux ou juste Bellingham?
Ah non, Vinicius, il était dedans aussi.
Ok.
Bien sûr.
Et alors, il paraît que la fédération uruguayenne a annulé les vols retour. Ils ont dit.
Ça me déplaît pas. C'est une bonne méthode.
Vous débrouillez pour rentrer.
Parce qu'après, il reste encore quelque chose pour le cas du Uruguay, c'est que bon, ça peut ne pas marcher avec ton sélectionneur. Tu lui en veux, ça colle pas, machin et tout. Quand tu représentes ton pays, tu dois être capable de mettre un petit peu à part et dire, écoute, le sélectionneur, ça va, mais nous sur le terrain, on va vraiment se donner.
Franchement, là, c'est dur.
Mais l'Uruguay, sur la deuxième mi-temps hier, moi, je trouve qu'il donne, c'est désordonné, mais il donne tout, hein.
Ouais, mais il peut pas.
Ils y vont en termes de détermination.
Il peut pas sortir Valverde, il y a des choses quand même. Ok, on aime, on n'aime pas. Le gars, il est peut-être tête à claque, mais tu sens pas Valverde à la 60e.
Je suis d'accord.
Ou alors tu te qualifies derrière, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Fini pour l'Angleterre.
Un petit point sur les. C'est fini entre l'Angleterre et le Panama, Aurélien.
Allez, strict minimum ou peut-être un peu plus. L'Angleterre qui bat le Panama 2-0 grâce à Jude Bellingham et Harry Kane en deuxième période. L'Angleterre compte 7 points, termine donc première du groupe L et voyagera à Atlanta pour affronter un troisième de groupe, potentiellement et probablement le Sénégal, mais ça faudra encore attendre un petit peu. Et puis les Panaméens, ça fait 6 matchs de Coupe du Monde dans son histoire, 6 défaites, mais ils n'ont pas été ridicules.
Et pour finir sur Bielsa, il a eu cette déclaration après le match. Il a dit, écoutez, c'est très simple, je vais être direct, tout apport d'un sélectionneur qui travaille depuis 3 ans ne compte pas si on n'obtient pas de résultat.
Il a raison.
Donc on a été 4e de la phase de qualif, ça vaut rien. 3e de la Copa América, ça vaut rien. Et on est éliminé ici, ça vaut rien.
Ouais. Du coup, il s'en va.
Lui, il ne se cache pas sur son bilan.
Au moins, il a une capacité d'auto-analyse assez bonne.
Et je suis pas sûr qu'il retrouve un poste. Hein. On est au bout de l'histoire.
Ouais, là, je pense que là,
on est au bout de l'histoire.
Là, bon. On est dans le temps additionnel de Croatie-Ghana. Quelques infos avant la fin du match. Vous dire déjà que dans le match Uruguay-Espagne, il y a eu de la casse côté espagnol avec Jérémy Pino qui souffre d'une entorse acromio-claviculaire et Nico Williams touché à l'adducteur droit. Donc pour l'instant, on ne sait pas.
Bah, Nico Williams, il est en phase de disparition totale depuis.
Ouais. Il a bien fait.
Bien trop longtemps.
Il a bien fait de pas aller au Barça, lui. C'était un bon choix.
Ouais, mais enfin bon, attention, l'Espagne, je trouve pas dingue du tout. Hein. Il paraît que c'est les grands favoris de la compète.
Si les Pays-Bas ils battent le Maroc, va falloir les arrêter.
Qui?
Les Pays-Bas. S'ils arrivent à battre le Maroc,
c'est Hollandais.
Il est parti sur les Hollandais.
Il est parti. Déjà qu'il était à fond sur Curaçao déjà.
Curaçao.
Ça y est, il est parti.
Attention les Pays-Bas.
Et puis alors.
J'ai failli acheter un maillot de Bergkamp aujourd'hui, Daniel.
Je vais juste vous raconter ce qui s'est passé en Équateur.
Trop cher.
Il y a plus beaucoup ces joueurs-là. Hein.
L'Équateur a battu l'Allemagne, vous le savez, il y a maintenant 48 heures en toute fin de match. Oui. Une belle performance. Oui. Ben, le président de la République en Équateur, il a dit on a gagné demain, jour férié pour tout le monde.
Ah ouais, ça lui a coûté de l'oseille par contre.
Voilà. Alors je sais pas si en France ça peut exister. Tu vois, tu bats la Suède en 16e mardi.
On va peut-être éviter les jours
mercredi,
fériés.
Mercredi, jour férié pour tout le monde.
Mais moi, j'aimerais pas. J'aimerais pas.
Bon, voilà. À suivre, bien sûr. La fin de Croatie-Ghana tout de suite, Clément Brossard.
Il y a encore un peu de suspense, mine de rien, dans cette rencontre. Il reste 40 secondes à jouer, 2 buts 1 pour les Croates. Début de Susic et de Vlasic, dont un il y a de cela 10 minutes. Et c'est Lukasen pour son premier match en Coupe du Monde qui a marqué pour les Ghanéens. Et le dernier ballon sera peut-être pour les Black Stars. On cherchait Thomas Hansant devant et la récupération sur le côté droit du Lyonnais. Et Ernest Nuama, c'était lui qui a donné le coup franc son coéquipier Lukasen pour le but ghanéen avec Semenyo sur le côté gauche, l'accélération, la frappe forte, ça va partir derrière la cage de Livakovic et la Croatie qui va certainement s'imposer et terminer deuxième de ce groupe là pour aller affronter en 16e de finale soit la Colombie soit le Portugal. Ce sera un cran au-dessus parce que c'est ghanéen en première période, alors là, ils n'ont rien montré, la deuxième c'était un petit peu mieux, mais c'est quand même poussif par rapport au potentiel parce qu'il faut souligner quand même qu'il y a un bon potentiel offensif pour le Ghana avec des joueurs comme Nuama, on en a parlé, comme Souleymanal d'Atalanta Bergame, on a aussi Semenyo évidemment de Manchester City, donc il y a mieux à faire sur le plan offensif. Il se montrerait peut-être à leur avantage en 16e de finale, mais c'en est terminé en tout cas pour cette phase de poule. Les Ghanéens qui se qualifient en tant que 3e et la Croatie avec cette victoire de 2-1 termine 2e de son groupe.
Merci, bonne soirée, merci Kevin, merci Daniel. Tout de suite, la nuit d'After continue avec Karine Galli. Dans une demi-heure maintenant, deux autres matchs, RDC-Ouzbékistan et le très intéressant Colombie-Portugal. Bonne nuit à tous avec l'After Foot.
RMC, After Live, Intégrale Coupe du Monde.